Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est temps pour nous d'écouter ta voix au milieu de ton peuple. Permets-nous, Seigneur, de rester attentif et sensible à ta volonté, afin que, Seigneur, nous soyons orientés et que nous soyons éduqués et façonnés à l'image que tu veux pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, rester calme devant toi. Et nous prions que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, parle dans le cœur de chacun. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous bénissons grandement notre Dieu qui est en train de marcher avec nous petit à petit pour cette semaine dans laquelle il a choisi de nous entretenir autour des thèmes intitulés pour une église vivante et stable ou alors la responsabilité du disciple pour la construction d'une église vivante et stable. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes aujourd'hui dans la cinquième séance depuis que nous avons commencé. Et je crois que le Seigneur est en train de communiquer certaines choses importantes à chacun de nous selon que nous sommes en train de les suivre, nous parler au quotidien. Nous savons que le Seigneur parle et quand il nous parle d'une manière ou d'une autre, il sait pourquoi. Parce qu'il est celui qui sait orienter notre vie. Le psalmiste pouvait dire, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. En réalité, Dieu sait ce qu'il nous faut et quand il nous parle, ce qui importe pour chacun de nous, c'est de rester sensible et attentif à la volonté de Dieu. Pour cet après-midi, notre texte de méditation se trouve dans les Actes des Apôtres. Vous savez, les quatre séances qui viennent de se passer, et je peux dire les trois séances à partir du lundi jusqu'au mercredi, nous avons écouté le Seigneur nous parler à partir des évangiles. En réalité, c'était une manière de dire qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même dit de la construction de son Église. Mais à partir de ces jours, maintenant, nous allons dans les Actes des Apôtres où nous allons découvrir l'Église primitive et voir comment cette Église a été construite et comment elle peut nous inspirer aujourd'hui pour que nous soyons des pierres vivantes dans l'édification de l'Église, qui est le corps de Christ. Ainsi donc, je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32 jusqu'au verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 4, 32 à 37, je conduis la lecture dans le nom de Jésus. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait les témoignages rendus par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent en effet. Ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « homme du réconfort », possédait un champ, c'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposant aux pieds des apôtres, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Pour les gens avec qui nous avons commencé cette semaine, nous avons dit que la vision de Dieu, c'est de construire une église vivante et stable dans le monde. Et hier, nous avons insisté sur l'aspect de la transformation intérieure des membres. L'église s'est construite à partir des personnes qui ont une transformation intérieure. Et nous avons dit que pour la construction de l'église de Dieu, c'est moi et toi qui sommes concernés. C'est nous qui sommes les premiers éléments dans la construction de l'église de Dieu. Selon ce que nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, il semble que le premier problème de l'église, si nous sommes dans une communauté dans laquelle nous ne trouvons pas la présence de Dieu, le premier problème se trouve au niveau des membres. Si tu deviens membre d'une communauté religieuse, membre d'une communauté ecclésiastique, alors que toi-même tu n'es pas transformé intérieurement, c'est toi le problème dans cette église. Si rien ne se fait dans une église locale, le premier problème n'est pas lié au leadership. Le premier problème n'est pas lié au manque de vision. Le premier problème est lié à la qualité des membres de cette église locale. Si tu peux vivre dans une communauté locale où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de désordres, le premier problème n'est pas lié au leadership. Ce n'est peut-être pas lié au manque de vision. Le premier problème se trouve à la qualité des membres de cette église. Parce qu'en réalité, c'est par notre transformation intérieure que Dieu s'est construit une église forte et stable. Et nous avons dit hier que si nous voulons construire Goma Ville qui est forte et stable, il faudrait que nous soyons à mesure de nous rassurer que chaque membre de Goma Ville est déjà transformé intérieurement. Que nous soyons à mesure de nous rassurer sur quel fondement chaque membre a construit. Parce qu'il est possible de vivre dans une communauté de manière extérieure, vous apparaissez comme si vous êtes meilleur, alors qu'à l'intérieur, il y a des problèmes et vous n'avez jamais été transformé. Nous avons parlé de l'exemple que Jésus a donné à ses disciples. Il dit, deux personnes ont construit. La première personne a construit sur le roc et la deuxième personne a construit sur le sable. Et il semble curieusement que d'apparence extérieure, en voyant la maison qui est construite sur le roc et la maison qui est construite sur le sable, extérieurement, il n'y a pas de différence. Tout le monde a construit. Et les gens pouvaient dire oui, tout le monde vient de construire. Mais ce qui importe pour la maison, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui importe pour la maison, c'est la fondation. Et curieusement, la fondation ne se voit pas à l'œil nu. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il y a eu la pluie, lorsqu'il y a eu le vent, lorsqu'il y a eu le torrent, c'est là qu'on a reconnu la maison qui était bien construite et la maison qui était mal construite. Bien-aimé, tu peux être à l'église. Tu parais une personne importante. Peut-être tu es serviteur à l'église, à même pied d'égalité avec les autres. C'est une bonne chose. Mais aussi longtemps que tu n'es pas transformé intérieurement, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui compte dans la vie de l'église, ce n'est pas ce que tu fais extérieurement. Ce n'est pas ton apparence extérieure. Ce qui compte dans la vie de l'église, c'est ton attitude intérieure. Ce que tu es et donc celui qui est à toi. C'est pour cela que vous trouverez, les gens sont à l'église. Ne soyez pas étonnés d'apprendre que quelqu'un qui est très important dans l'église, ne soyez pas étonnés d'apprendre qu'il a détourné de l'argent et qu'il a été chassé de ce boulot. Le problème, c'est qu'il était d'apparence à l'église, mais intérieurement, il n'était pas membre de l'église. Et nous avons dit, dans nos communautés, il est possible que nous ayons beaucoup d'hypocrites. Ils sont là parce qu'ils sont nés à l'église. Mon père est de cette église, moi-même je grandis ici. Nous allons à l'école des dimanches depuis longtemps. On nous connaît ici. Mais l'appartenance à l'église, ce n'est pas parce qu'on te connaît ici. L'appartenance à l'église, ce n'est pas parce que tu as grandi ici. L'appartenance à l'église, c'est parce qu'un jour, tu as donné ta vie à Jésus et tu as accepté qu'il règne sur ta vie comme maître et seigneur. C'est cette attitude intérieure qui compte. Et alors cet après-midi, nous nous intéressons à un petit thème que nous avons intitulé « Les portraits ou l'image d'une église vivante et stable ». Nous avons déjà parlé des membres et c'est supposé qu'à l'heure où nous sommes ici, si quelqu'un n'est pas encore à mesure d'évaluer s'il est membre de l'église ou s'il est membre d'une simple communauté, ça peut encore être une difficulté. Mais la réalité, c'est que nous passons qu'avec les 3 jours depuis le lundi, chacun est déjà à mesure de dire est-ce que je suis déjà membre de l'église ou je suis seulement dans une communauté. Alors aujourd'hui, nous parlons du portrait. Comment se présente une église vivante? Quelle est l'image de l'église vivante? Pour que nous soyons à mesure de nous évaluer, de voir, est-ce que notre communauté locale ici, nous sommes une église vivante? Nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Et dans cet acte des Apôtres, nous regardons la vision de l'église primitive comme modèle d'une église vivante, d'une église à partir de laquelle nous pouvons évaluer nos communautés locales aujourd'hui pour voir si nous-mêmes, nous sommes des églises ou alors des églises locales vivantes. Dans le portrait que cette église, dans le portrait qui est décrit pour cette église primitive au chapitre 4, nous allons très lentement avec ce texte ici. La transformation intérieure des membres, le fait que nous faisons déjà une communauté où une personne est transformée, une autre est transformée, tout le monde dans la communauté est transformé, produit des fruits qui sont visibles et qui peuvent être évalués de manière concrète. La communauté que nous lisons dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire l'Église primitive, qui a été dirigée par les apôtres eux-mêmes, la première chose qui se révèle de ces textes, il ressort que cette Église, ou alors les membres de cette Église, ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ça, c'est au verset 32. Ils vivaient dans une unité parfaite, ça c'est ma version qui dit une unité parfaite de cœur et d'esprit. Là où il y a des personnes transformées, des personnes qui ont construit sur les rocs et non sur les sables, il y a une unité parfaite de cœur et d'esprit. Quand on parle de l'unité parfaite des cœurs et d'esprit, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire? Ceux qui s'intéressent à l'être humain, ils disent que le cœur, c'est le siège des sentiments et des émotions. On dirait autrement que le cœur, c'est la manière dont nous réagissons aux situations qui nous arrivent. La manière dont tu réagis habituellement, sentimentalement et émotionnellement aux situations, c'est ça ce que signifie le cœur. C'est le siège des sentiments et des émotions. Alors quand on dit ces gens, ils avaient une unité parfaite des cœurs. Ça veut dire que dans cette première communauté, les sentiments que les gens avaient à travers les situations qu'ils pouvaient vivre étaient les mêmes sentiments et les mêmes émotions. Nous sommes en train de vouloir faire une évaluation de nos communautés locales et voir est-ce que nous sommes une église vivante ou encore nous avons un travail à faire. Avoir les mêmes sentiments et les mêmes émotions, ça veut dire que quand les situations arrivent, s'il est dit « je crois qu'il faut qu'on prie » et tout le monde dit « oui, ce qui est important, il faut que nous puissions prier ». La manière de réagir devant les situations, une même manière de réagir devant les situations. Je crois qu'il faut que nous fassions ceci et les gens disent oui, c'est très important, c'est ça, c'est que moi-même je pensais qu'il faut que nous fassions. Combien de fois par émotion et par sentiment nous ne nous sommes pas bagarrés et nous nous sommes disloqués à l'église à tel point que même certains décident de ne plus venir au culte parce que lui quand il voulait proposer les autres étaient opposés et tout le monde ne se comprenait pas quand il y avait telle ou telle autre réunion. La première communauté, ils avaient une unité parfaite de cœur et d'esprit. L'esprit, c'est quoi? Par définition, l'esprit, de la manière dont il est présenté dans le texte biblique, c'est le siège de la raison. L'esprit, c'est le siège de la raison, c'est-à-dire le siège de la mémoire, de l'imagination, et du raisonnement, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, ceux qui s'intéressent à l'être humain, ils disent que c'est par l'esprit que l'être humain réfléchit et imagine la réalité de la vie. Alors, les implications sont très faciles à voir ici. Si le cœur peut être le siège des sentiments et des émotions, et que l'esprit soit le siège de la raison, ça veut dire que cette communauté dans son unité, elle était unie non seulement dans la manière de réagir devant les réalités, mais aussi dans la manière de planifier d'autres réalités. C'est-à-dire l'unité parfaite dont il est question dans notre texte, c'est l'unité qui vous permet d'être dans la même dimension, dans vos réactions et dans vos raisonnements. Il y a d'autres versions dans lesquelles on dit ils avaient l'unité parfaite des cœurs et de l'âme. Si vous lisez d'autres versions, vous pouvez voir ça. Mais en même temps, ceux qui parlent de l'âme, ils disent que l'âme, c'est le siège, c'est le moteur de la faculté morale. C'est le moteur de la faculté morale. La réalité qui est dans ce texte ici, c'est qu'à cause de la transformation intérieure, les membres d'une église locale, ils vivent comme des fils et des filles des mêmes pères. Et désormais, lorsqu'ils réfléchissent, ils réfléchissent non selon leur dimension, mais dans la dimension du Père qui est en eux et qui agit en eux. Alléluia. La réalité, c'est quoi? C'est qu'être transformé à Jésus-Christ permet que le Saint-Esprit habite à toi. Et quand le Saint-Esprit habite à toi, le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit qui me révèle une réalité, si c'est le même esprit qui habite à toi, il te révélera la même chose. S'il y a encore des contradictions dans nos communautés, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas le même esprit. Si c'est le même esprit qui agit à moi, le même esprit agira à l'autre. C'est pour cela que vous verrez dans les communautés vivantes, dans les communautés des personnes transformées, pendant que toi tu comprends que dans cette situation il faut que je prie, l'autre en même temps il est en train de s'en dire qu'il faut que je prie dans cette situation. On n'a pas besoin de se communiquer, on n'a pas besoin de se sensibiliser. Le Saint-Esprit qui agit à toi, c'est le même esprit qui agit à l'autre, et c'est le même esprit qui agit à l'autre, et qui permet que la communauté avance, non selon la vision d'une personne, mais selon la vision du Saint-Esprit lui-même. D'où viennent les conflits et les contradictions dans nos réunions et dans nos rencontres. Est-ce que le même esprit qui agit chez tel, c'est le même esprit qui agit chez l'autre? Les jeunes et les pasteurs et les consistoires, quoi qu'il n'y en a pas à Goma Ville et des choses comme ça. Il y a quelquefois des tiraillements, il y a même des églises locales où vraiment, donc les consistoires c'est la majorité, la jeunesse c'est l'opposition. Vous faites une chose car la jeunesse va réagir. Ah, vous dites, est-ce que vous êtes de cette église ou vous êtes dit notre église? Est-ce que c'est le même esprit qui agit à travers les anciens de l'église qui est en train d'agir à travers les dirigeants de la jeunesse? D'où viennent ces contradictions? Dans l'église vivante, il y a unité d'esprit et unité de cœur. À tel point que la vision que la jeunesse a pour l'évangélisation des jeunes, c'est la même vision qui est au consistoire. Pourquoi? Parce que le même esprit qui révèle les dirigeants de la jeunesse, c'est le même esprit qui révèle les anciens de l'église au consistoire. Si nous avons des contradictions, il faut revenir à nous-mêmes pour demander, est-ce que nous avons le même esprit ou nous avons deux esprits? Peut-être qu'il peut y avoir deux esprits dans une même église ou même plusieurs esprits. Ou c'est là que tu donnes ton point de vue, l'autre est en contradiction avec toi, l'autre est en contradiction. Donc tout ça, c'est l'eau, ce que vous êtes en train de faire là. Ta manière de raisonner n'est pas la même manière de l'autre, il n'y a pas unité d'esprit. Ta manière de réagir aux réalités n'est pas la même manière de l'autre, il n'y a pas unité de cœur. Alléluia. La première église, il y avait une parfaite unité des cœurs et d'esprit. Où trouverons-nous cette communauté où lorsqu'on dit Alléluia, tout le monde dit Amen. Et c'est comme ça que les choses avancent. Il y a des gens qui se construisent dans l'église, disent, bon, vous voyez, tel que moi je vois là, donc il faut qu'on crée un groupe qui va faire une pression contre tel pour qu'ils sentent que nous sommes là. Et vous sentez ça, c'est dans l'église. Les gens se réunissent pour faire une pression contre un leadership afin qu'on sache qu'ils sont là. Beaucoup d'églises à Goma, si vous allez dans les avenues, il y a beaucoup de communautés à Goma. Il y a même des avenues où, j'étais curieux un moment, il y a une avenue vers au quartier, là, je ne vais pas parler peut-être du lieu directement. Vous passez par l'avenue, il y a une porte d'une église ici, une église locale, il y a aussi une autre porte ici. Donc, pendant que ces gens sentent la louange et l'adoration, ici, on ne peut pas faire quelque chose de silencieux. Et quand vous demandez des prêts, on dit non. La réalité, c'est que celui qui a commencé cette église, il était diacre ici. Et alors, ils ne se sont pas compris à l'intérieur. Il a décidé directement lui-même aussi de prendre un groupe de gens et d'amener ça ici. Et sa décision, c'était de rester face à face pour qu'on soit à mesure de se confronter face à face. Il y a combien d'esprits là-bas? Je crois que l'esprit de révolte dans une communauté ou dans une église témoigne déjà que, c'est-à-dire celui qui se révolte, il n'est pas en unité d'esprit avec ceux-là qui sont là-bas. Quelqu'un a fait des recherches, il a découvert qu'à Goma, à la période où peut-être qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens, mais il a découvert qu'un habitant de Goma est exposé à au moins 5 prédicateurs. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers où si vous allez acheter une parcelle là-bas, il faut comprendre que au moins, si il n'y a pas veillé, là-bas, il y a veillé. Si là, il n'y a pas veillé, ici, il y a veillé. Donc, les églises, on est dans la louange et l'adoration toutes les nuits. Et alors, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas la possibilité, si nous avons le même cœur et le même esprit, nous n'avons pas la possibilité de nous asseoir et de faire une église et une nuit et forte pour la gloire de Dieu? Si nous sommes en train d'adorer le même Dieu, pourquoi l'adorer là-bas et l'adorer ici, adorer ici et ailleurs? Et alors, dans ces réalités-là, on est en contradiction sur les pensées. La première communauté, il y avait unité parfaite. Ce n'est pas une unité de bricolage. Unité parfaite des cœurs et d'esprit. Il arrive que dans la même chorale, contradiction. Les gens qui sont pour le président et les autres qui sont pour l'entraîneur. Quand le président décide, les autres disent, mon nom n'a pas d'antenne. Pas les enfants n'achètent tout le cas. Deux esprits dans une même chorale qui est en train de louer un seul Dieu. Un seul Dieu. S'il y a des problèmes comme ça, bien-aimés, pour les choristes qui sont ici au moins, si vous avez des problèmes comme ça, vous allez chanter demain après vous avoir arrangé là-bas. Rassurez-vous que vous avez les mêmes esprits. On ne sera pas avec vous, on ne va pas envoyer les pasteurs là-bas. Vous-même, méditez sur vous-même. Est-ce qu'il y a un seul esprit ici? Parce que ça ne sert à rien que vous veniez devant le Seigneur et vous êtes partagés en esprit et à cœur. Vous n'avez pas la même dimension spirituelle et vous venez chanter pour eux-mêmes Dieu. Dans l'entretien, quand vous chantez, il y a les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Ça, c'est la première valeur de l'Église primitive. La deuxième chose, au verset 32b, toujours dans le verset 32. Cette Église ici, ou alors les membres de cette Église, selon ce que nous avons dit, selon ce que nous avons lu, ils mettaient tout en commun. Et nul ne considérait ses biens comme propres à lui. Ils mettaient tout en commun. Cet esprit d'union qui permet de comprendre que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre aussi. En fait, ce qui est important dans cette communauté, c'est qu'ils ont compris que s'ils sont en train d'adorer un même Dieu, c'est qu'ils sont devenus des enfants d'une même famille. Et désormais, la chaussure que tu as, elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour ton frère. Si tu achètes une jupe, ce n'est pas seulement pour toi, parce que le même Dieu qui t'a donné la jupe, il a donné aussi à l'autre une blouse. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le même Dieu qui t'a donné ce que tu as, c'est le même Dieu qui a donné à l'autre. Et nous voyons toujours comment les parents font à la maison. Il arrive que papa peut venir du marché, il va dire, bon, aujourd'hui j'ai amené des sandales, j'ai amené aussi une jupe, j'ai amené aussi un tricot. Quand vous êtes nombreux et quand vous êtes à trois, chacun prend ce qu'il veut d'abord. Et prochainement, quand j'amènerai encore des sandales, je donnerai à l'autre. Quand j'amènerai une jupe, je donnerai à l'autre. Et voilà comment ça va se passer. La réalité, c'est que Dieu, dans sa manière d'agir avec nous, c'est comme ça qu'il agit. Si tu achètes une voiture, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, cette voiture-là, c'est pour nous. Si Dieu veut, il peut le prendre et il le donne à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et s'il t'achète une voiture, peut-être qu'on a commencé par toi, mais demain, on va te donner autre chose, on va donner la voiture à quelqu'un d'autre. C'est ça la réalité de la famille de Dieu. Lorsque nous sommes transformés et que nous vivons dans la communauté, nous comprenons que ce que nous sommes des enfants d'une même famille, ce que je ne m'appartient pas forcément, ça appartient à l'autre. Comment comprendre cette vérité aujourd'hui? Je vais y arriver pour donner des exemples très concrets pour que chacun s'évalue lui-même. Est-ce que tu es sûr que lorsque tu as un repas, ce n'est pas seulement pour toi? Il y a des gens qui se cachent pour manger, il faut fermer les portes, il faut aller. Et quand autant que quelqu'un est en train de toquer, alors il faut faire tous les moyens d'être comme si on ne faisait rien. Mais la nourriture que tu as là, c'est notre Père qui t'a donné ça. Ce n'est pas ta nourriture, c'est notre nourriture. Au verset 33. Dans cette communauté, ils vivaient les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, avec puissance, ils vivaient les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus était annoncée avec puissance. Ce qui caractérisait les disciples, les apôtres et les autres, c'était que quand tu attaques quelqu'un, tu parles de la résurrection de Jésus, tu dis, lui-même et de ce groupe-là. Vous savez qu'ils ont été appelés des chrétiens pour la première fois, c'est en Antioche. Et le mot chrétien, c'était une injure pour eux, pour ceux qui leur donnaient ça. On disait, bon, les gens-là qui parlent toujours de Christ, comment ce sont des chrétiens? Et quand quelqu'un arrive à côté de toi, il commence à parler de la résurrection de Jésus, tu sens que, ça c'est vraiment les chrétiens. Quand je réfléchis à ça, vous voyez un peu comme on est dans la campagne. Et les gens aujourd'hui parlent seulement de leur parti politique. Et vous trouvez les gens sont départagés, les autres sont de tels, les autres sont de tels. Et je suis en train de suivre, il y a un groupe dans lequel je suis en train de suivre des débats. Si les gens pouvaient se toucher dans ces groupes-là, on se serait déjà blessé. Parce que les autres campent sur leur position tellement qu'ils ne veulent même pas voir la faiblesse de l'autre. Non, le problème c'est que vous ne comprenez pas, c'est lui. Alors ces gens ici, ils étaient membres des partis politiques. Ces partis ici, bon, pas partis politiques, ces partis ici auxquels ils appartenaient, ils étaient des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Et donc partout où ils allaient, ils annonçaient la résurrection de Jésus. C'était le grand miracle. Et c'était le message le plus important. Tu veux découvrir un chrétien, écoute ce qu'il te dit. Quand il te dira, il ne manquera pas de parler de la résurrection de Jésus. Est-ce que nous avons l'unité dans nos communications? Ça, c'est l'unité dans la communication. Unité de cœur et d'esprit. Unité de bien. Unité de communication. Lorsqu'il fallait communiquer, il communique les témoignages de la bonne nouvelle. Combien de fois évangélisons-nous? N'est-ce pas qu'aujourd'hui nous avons mis à l'église une équipe d'évangélisation? Et quand à cette réunion on arrive, on dit, bon, a toujours comme un évangéliste, il y a eu un moukazi à Boninini. Comment un évangéliste va nous accorder à Moukoutan? Et toi, tu es qui? Si tu attaques les évangélistes face à ça, et toi, tu es qui dans l'église? Ils avaient une même identité. Quand il fallait parler de la résurrection de Jésus, c'est tout le monde qui parle. Mais nous, on a spécifié. Non, ça c'est le rôle des évangélistes. Non, ça il faut donner aux évangélistes. Et toi, tu es qui dans l'église? Être évangéliste, ça signifie quoi? Signifie parler de la résurrection de Jésus, appeler les gens au salut. Et toi, si tu ne fais pas ça, tu fais quoi à l'église? La première communauté, ils étaient unis dans leur communication, ils étaient unis, si bien qu'ils pouvaient donner le message de la résurrection. J'ai toujours aimé cette première communauté. Vous savez, à un certain moment, il y avait des problèmes dans la première communauté. Il y a toujours des problèmes partout, ne vous étonnez pas. Même dans l'église primitive, il y a eu aussi des soucis. À un certain moment, un groupe de gens s'élève dans l'église et dit, bon, alors, on vient de faire l'évaluation, on se rend compte que les veuves de chez nous sont oubliées ici. Vous savez, ce texte-là dans les Actes des Apôtres. Nous venons de découvrir que nos veuves, sans mon asikia kase, ni mon veuve fulan. Alors les apôtres ont dit, ça c'est déjà un problème. S'il y a un groupe de gens qui commence à passer, qu'ils sont oubliés, il faut qu'on choisisse notre personne qui va nous aider à travailler sur les tables et nous serons en train de travailler pour l'annonce de la bonne nouvelle. J'ai toujours aimé. Alors quand on a dit choisissons les gens qui devaient faire ce travail, on n'a pas choisi n'importe quoi, on n'a pas dit qui est disponible, non, non. On a dit choisissez des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et j'ai toujours aimé. La première personne qu'on a choisie s'appelle comment? On est dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 7. La première personne qu'on a choisie s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Voilà, merci beaucoup. La première personne qui a été choisie comme diacre, si vous pouvez dire, le premier diacre dans l'histoire de l'Église, c'est Étienne. Parce qu'on a trouvé qu'il y avait des gens qui se commençaient à se lamenter à cause des nourritures. Les nourritures dont il est question, ce sont les nourritures ici qu'ils mettaient à commun. Et on commençait à voir que les veuves qui ont beaucoup de besoins, mais quand il s'agit de veuves de telle part, ils disent qu'ils sont oubliés. Hein? Alors, Stéphane et les autres, les porokoro et les autres, vous allez chaque fois travailler. Mon kwemuna gabulia bajane chakula. Mtu akifika sana sikia njala mumupatie kidogo. Donc, rassurez-vous que dans l'église, chacun est en train de prendre ce dont il a besoin. Je vous pose la question. Est-ce que Stéphane est mort à partager les pommes de terre et les patates douces? Hein? Est-ce qu'il est mort au champ dans les transports ou à combien André de transporter les patates douces? Là, il semble que vous n'avez jamais lu ce texte-là. Bien qu'il était choisi comme diacre qui devait partager les riz, les haricots, il n'est pas mort parce qu'il avait été blessé à chercher les haricots ou les riz. Il est mort parce qu'il a évangélisé. Et c'est pour cela que je comprends que dans l'église primitive, il n'y avait pas une équipe d'évangélistes. C'est tout le monde qui est évangéliste. Même quand tu vas partager les patates douces, parle d'abord de Jésus et de sa résurrection. Étienne est mort comme évangéliste et pas comme diacre. Ce n'était pas un abandon de poste. C'était pas un abandon de poste. Ils avaient dans leur communauté la vision d'amener les gens vers le Seigneur. Ils étaient motivés. Et même si c'est toi qui balayais les temples, quand quelqu'un arrivait dans les temples, la première chose est de te rassurer. Est-ce qu'il connaît la résurrection de Jésus? Avant de continuer, est-ce qu'il connaît la résurrection de Jésus? Combien de fois nous avons voyagé dans des bus avec des gens? On quitte Kécher, on arrive ici à ville, on ne dit rien de Jésus. Rien de Jésus. Combien de fois encore pire, des chrétiens sont en train de transport en commun et quand tu écoutes André de dire, tu dis, ah, c'est celui-ci qui est en train d'animer un débat. Comme ça ici, où est l'unité de communication, la communication de la résurrection de Jésus? Combien de fois n'avons-nous, dans des occasions très importantes, nous avons oublié de parler de Jésus, alors que Jésus nous attendrait parler. Ah, na kuangalia, tu quittes, ta bouche est fermée, tu arrives et quand tu arrives, tu dis, ok, vous voyez, tu parles d'autres choses et Jésus dit, mais tu attendais quoi, il fallait parler de la résurrection de Jésus. Ils étaient motivés à ce niveau-là. Quelqu'un nous a partagé une réalité qui nous a très marqué et qui nous a défié, c'est que papa, quand il est arrivé dans un restaurant, on lui a amené les petits pois. Et quand on lui a amené les petits pois, il a dit à la maman, ah, les petits pois, on en l'était ici, c'est n'a pas comme un problème, ça n'a pas. La maman était très surprise, comment les petits pois créent des problèmes? Alors le papa lui a dit, vraiment, les petits pois, mais ces petits pois ici a beaucoup de problèmes. La maman n'en revenait pas, dit, mais je mange ici, je donne les petits pois à tout le monde. Personne ne m'a jamais dit que ça crée des problèmes. Si tu ne veux pas les prendre, tu peux dire, je peux t'amener au trésor. Il dit, non, moi je vais te dire les problèmes du petit pois. La maman est partie et après elle est revenue, elle dit, bon, je viens de servir tout le monde, tu peux maintenant me dire les problèmes du petit pois, c'est quoi? Alors le papa a commencé à dire, il y avait quelqu'un dans la Bible, il y a des enfants qui sont nés ensemble dans la Bible. L'un s'appelait Jacob, l'autre s'appelait Esaü. Il est arrivé un moment où l'un a eu faim. Et parce qu'il avait tellement faim, il a vu l'autre avec des lentilles, de l'eau. Les lentilles, c'est comme le petit pois, il a dit, bon, vraiment donne-moi juste un peu, au moins je vais te donner mon héritage. L'évangéliste a commencé là le petit pois qu'il avait acheté comme repas au restaurant et à sortir du repas, la maman a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et nous aujourd'hui, que faisons-nous des opportunités que le Seigneur nous donne pour parler de Jésus? Le verset 34. Il faisait le partage de biens chacun selon ses besoins. Lorsque la nourriture était amenée, lorsque les biens étaient amenés aux pieds des apôtres, il faisait le partage chacun selon ses besoins. Il pouvait dire, est-ce que tu n'as pas d'habit? Oui, ok. Comme il y a quelqu'un qui disait qu'il a trois habits, il vient d'amener un, tu peux prendre ça. Est-ce que tu n'as pas quelque chose? Oui, ok, voilà, tu peux prendre ça. Alors, je suis là, le pasteur n'est pas là. Oh, le pasteur est là. Pasteur, est-ce que nous savons qui n'a pas mangé hier chez lui, soir? Est-ce que nous savons dans cette église quelqu'un qui n'avait pas à manger hier et qui, malgré lui, il est parti dormir? Mais bon, voilà. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait lui donner. Mais est-ce que nous savons? Dans la première communauté, chacun selon ses besoins. Je n'ai pas à manger. Et celui qui a à manger dit, on peut partager cette patate douce pour que toi aussi tu vives. Bon, peut-être quand je parle du pasteur, le pasteur a tellement beaucoup de gens. Cette église est très grande, il y a beaucoup de gens. Le président de la chorale, Bethany Gospel Choir. Voilà. Est-ce que tu connais celui qui est en difficulté? C'est lui qui, même ici, n'a même pas 100 francs dans sa poche. Donc, si vous dites, bon, débrouillage, quand on quitte ici, il reste en ville. Est-ce que tu le connais? Non. On ne connaît pas celui qui est en train de souffrir à côté de soi. Même quand nous sommes dans des petits groupes, et quelquefois, il nous échappe d'oublier et de voir qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir à côté de nous. Dans cette église primitive, chacun selon ses besoins. Quand quelqu'un pouvait te dire, ici, si Kuniko crise, je parlais avec un frère, avant-hier, il m'a dit, Niko crise, Injo crise, Nina Chava, Viva, Naoucha, ma parcelle, des fois. Donc, il dit, je suis à crise et que je comprends pourquoi certains vieux vendent leur parcelle deux fois. Alors qu'ils ont déjà perçu l'argent, mais il dit, bon, au moins, d'affungiwa quand même, on anime résoudre quoi ta situation. L'entretien, quand il dit ça, il y a quelqu'un qui a des moyens et qui pouvait l'aider. Et on est dans une même église, mais chacun pour soi. Chacun pour soi. Le portrait de l'église primitive nous révèle que chacun était répondu selon ses besoins. Et la question que je me suis posée et que je vais nous poser, c'est de dire, est-ce que cette réalité est possible aujourd'hui? Évaluons-nous mutuellement. N'est-ce pas qu'on a fait le lundi, le mardi, le mercredi, on a dit, nous sommes transformés intérieurement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore transformé intérieurement ici, bien-aimé dans le Seigneur? Peut manifester. Tu dis, non, moi je ne suis pas encore transformé. Ah, tout le monde est déjà transformé. Tout le monde est déjà transformé, n'est-ce pas, bien-aimé? Ok, faisons l'évaluation. C'est-à-dire, si nous sommes déjà transformés, même cœur et même esprit, même âme, vous pouvez cocher vrai ou faux dans votre vie. Est-ce que c'est la même chose, nos réflexions, notre manière d'agir, notre manière de concevoir les choses? Est-ce que nous sommes sur le même diapason? Ok, deuxième chose. Si nous sommes déjà tous transformés, est-ce que nous savons mettre nos biens en commun? Si nous sommes déjà transformés, est-ce que nous avons le même message qui est l'évangile qu'il nous faut annoncer au monde? Ou certains parlent de l'évangile quand ils sont à l'église et quand ils sont ailleurs, on parle d'autre chose. Si nous sommes déjà transformés, nous tous, est-ce que nous allons ou alors nous savons nous regarder mutuellement pour savoir que celui-ci est dans les besoins et l'autre est dans les besoins? La question que je me suis posée en allant vers la fin de ces messages, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir encore une telle communauté? Je vais avoir d'abord votre réponse avant de donner la mienne. Est-ce que c'est possible d'avoir encore une telle communauté? Ah, j'attends, il y a une réponse positive ici. Je crois que c'est oui, malgré les défis. Quelqu'un a déjà dit, non, l'église primitive, il n'y avait pas beaucoup de problèmes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes que, ah, on n'a rien à partager, mon frère, on n'a rien à partager. Même quand tu as quelque chose, ah, non. Vraiment, il y a beaucoup de défis aujourd'hui. Bon, les problèmes, ce ne sont pas les défis. Les problèmes, c'est la disposition du cœur. Ce ne sont pas les défis. Mais je crois que nous avons besoin d'une réforme nécessaire. Nous devons réformer notre manière de vivre. Nous devons changer Notre manière de réfléchir et ma prière cet après-midi, c'est que le Seigneur te révèle qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta manière de concevoir les choses. Regardez la réalité que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Il est possible que certains, alors qu'on est dans la même église, dans une même communauté locale, il y a quelqu'un qui doit vendre creux et dans l'entretien, il y a une nourriture qui est en train de pourrir chez l'autre. N'est-ce pas que ça, c'est une réalité aujourd'hui? Qu'il y a beaucoup de nourriture chez lui aujourd'hui. Qu'il le dise ici pour que celui qui n'en a pas, il puisse aller profiter de ça. Il y a des gens qui n'invitent jamais les gens chez eux. Alors qu'ils ont beaucoup de nourriture à la maison. Tu n'as jamais fait une invitation pour dire, aujourd'hui frère, il faut que tu viennes manger chez moi. Mais dans l'entretien, tu dis, bon, les nourritures là qui ne vont pas bien, il faut aller les jeter au port. Il faut demander si au quartier, s'il n'y a pas quelqu'un qui a des porcs. Bien aimé, quand tu cherches des porcs, il y a dans l'entretien des gens qui allaient même encore trier quelque chose là-bas pour vivre. Vous voyez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Tu peux quand même inviter frère et frère. Tu dis, bon, frère, je vois qu'il faut aujourd'hui que tu manges chez moi. Il y a déjà ici. Pour qui ils ont encore une discipline qui est telle que quand tu arrives chez lui, dis oui, est-ce que je peux savoir pourquoi tu es là? Mais frère, pourquoi je suis là? Est-ce que d'abord tu ne peux pas me donner quelque chose ici? Des disciplines qui sont tellement que vous mettez des barrières chez vous. Et alors vous voyez que vous trouvez toujours quelqu'un à l'église chaque jour, mais vous ne savez jamais il habite dans quel quartier. Et si vous savez le quartier, vous ne savez pas la couleur de la maison, vous ne savez pas il a combien de pouces pour sa télévision au salon. Tu es content de connaître seulement les pouces de ta télévision seule. Tu achètes 50 pouces pour toi seul. Et puis ça fait quoi? Faut éviter un jour tous les diacres. Et puis quand ils arrivent, tu allumes la télévision. Ah, voilà, c'est bien. Tu achètes 50 pouces pour toi-même. Pourquoi? Acheter ça aussi pour que les autres viennent voir. Ils disent, ah, ça c'est une bonne télévision. Ça coûte combien? Et quand le centre te demande comme ça, c'est en train de les aider mentalement pour dire, est-ce que moi-même un jour, je peux acheter une télévision comme ça? Il y a des jeunes qui ils sont ici qui pensent que vraiment... Acheter une télévision de 32 pouces, c'est déjà quelque chose. Bien-aimés, garçons, frères et sœurs, jeunes, il y a des télévisions, tu y arrives. Quelqu'un me disait, tu arrives dans une maison, la tête de celui qui parle à la télévision est grosse que ta tête. Alors malheureusement, celui qui avait acheté la télévision, personne n'arrive chez lui. Alors qu'on est dans une même église. Pourtant, s'il y a un jeune qui arrive là-bas, il aurait dit, ah, moi-même, je dois travailler pour avoir une télévision comme ça. Tu n'as jamais pris quelqu'un dans ta voiture. Comment il saura que ta voiture est bonne? Quelquefois, nous ne savons pas motiver les jeunes. Tu achètes une bonne voiture, tu prends aujourd'hui un jeune, tu prends demain un autre type. Tu es en train de susciter en elle la mentalité que non, je dois acheter un jour une voiture comme ça. Mais bon, lui croit que seulement les déplacements sur moto, ça suffit. Il y a des gens qui s'asseyent dans des voitures ici. Et quand il est dans la voiture, tu peux même oublier de dire que je vais rester ici, tu continues avec lui. Le problème, c'est que vous avez des bonnes choses pour vous-même. J'ai toujours aimé les mamans. Si tu arrives chez une maman et que la maman te dise vraiment, « Wache tu songe, wache tu songe, wache tu songe. » Si elle insiste, vous jouez que les mamans, ils connaissent Kamboga parle. C'est qu'elle a une bonne sauce. Et elle est en train d'insister parce qu'il veut au moins que tu goûtes. Il y a des mamans qui vont te dire, « Oh, comment tu peux dire que tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu. » Mais quand il n'y a pas de sauce à la maison ou quand la maman a préparé une sauce pour laquelle elle n'est pas sûre, tu dis, « Bon, oui, je suis encore ici pendant quelques minutes. » Ok, ça va, bon. Mais aïe, vraiment? Alors que dans l'entretien, il y a une sauce. Le problème, c'est qu'elle n'est pas fière de sa sauce là. Et puis, dit, bon, il sauce est à Nipemou la bourre et moi, il s'aime tout. Bah, c'est ça, tout ce qu'il y a à Konjal. Non, même si, comme à Koubon, ah, c'est pas, non, parce que tout ce qu'il y a à Konjal, on me fait qu'on a touché à Pigazaman. Dans l'entretien, il y a la possibilité, mais elle n'est pas fière de ça. Les mamans, je les aime. Quelquefois, elles sont comme ça. Quand elle est contente, quand elle est fière de ce qu'elle a fait, elle veut que tout le monde sache. Les mamans là qui ont des beaux maris, vous les trouvez, dites oui, Mais baba qui n'a pas toto. Donc partout quand vous commencez, de pas même qui est aussi, j'ai dit oui, oui, moi le père des affaires à la maison. C'est quoi avec le père des affaires? Ça veut dire qu'ils sont dans de bonnes conditions à la maison. Partagez ce que vous avez pour donner la joie aux autres. C'est ça ce qui était le portrait de la première communauté. Mais il y a des gens qui, tu es dans l'église, on finit les cultes ici à 18h moins. Tu conduis ta voiture seule. On a pita kuba toi pas comme l'ang. Ça m'a dit que tu as les voitures. C'est vraiment mon aïe. Non! La réalité, c'est que tu n'as pas compris que tu es en train de gérer quelque chose qui ne t'appartient pas. Et dans l'entretien, les gens vont se tenir là-bas à la route en train de chercher les transports. Mais toi, tu as quitté. Tu es parti seul jusqu'à la maison. Ah, aujourd'hui, je deviens méchant. Mais quoi, ma carissana? Il est possible aujourd'hui, alors qu'on est dans la même église, des chrétiens qui reçoivent, qui ont des bons salaires, $500, mais dans l'entretien, dans la même église, il y a même quelqu'un qui cherche un travail de $15. Je connais une ville dans laquelle tu peux t'engager, on te donnera $15 le mois dans l'entretien. Chaque jour, ce que tu fais entrer comme recette, c'est $80. Tu fais entrer $80 chaque jour. Et le patron, il dit, bon, moi, je vais me dire, ok, ça va, comment ça? Ici, coûtons ingapi. 25 000 francs, c'est 10 dollars. Ok. Il te donne $15. Toi, tu qui faisais, André, $80 par jour. Et dans l'entretien, le dimanche, il dit, nous qui sommes les chrétiens. Ça, ce n'est pas l'image de l'église primitive. Possible aujourd'hui, tu as 3 parcelles. Mais dans l'entretien, quelqu'un dans la même église, dans la même communauté, il cherche même une parcelle où il peut mettre un abri. En attendant. Mais toi, tu as 3 parcelles. Et tu dis, vous savez, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et le frère, là, tu ne sauras pas l'évangéliser parce que quand tu dis, le Seigneur t'a aimé comme on n'a jamais aimé, il dit, bon, voilà. Donc, le Seigneur vous a aimé, nous autres, alors nous sommes comment? Il est possible aujourd'hui de trouver des personnes dans l'église qui cumulent des fonctions. Tu reçois un salaire ici. Tu reçois un salaire là-bas, tu reçois un salaire là-bas et dans l'entretien, les jeunes sont en train d'écrire des demandes d'emploi, ça ne passe pas. Il écrit, ça ne passe. Il écrit, ça ne passe. Pourquoi ne pas abandonner un poste pour appeler les jeunes à aller travailler là-bas? Et vous trouvez quelqu'un qui peut vous dire fièrement, il dit, bon, voilà, moi, quand j'ai fait la sommation de tout mon salaire pendant les mois, je suis dans les 1600, hein? Et que tu es dans les 1600 et dans l'entretien, il y a un jeune qui risque d'être un voleur parce qu'il n'a rien à faire. Et quand il veut même devenir motard, les roulages les dérangent sur la route, on prend sa moto, on amène à la mairie. Mais il ne sait même pas aller prendre la moto à la mairie parce que la vie est devenue compliquée. Mais dans l'entretien, la licence est à la maison. Vous voyez ça, c'est l'église. Et quand tu veux évangéliser celui-là, tu dis aujourd'hui, moi je suis dans les 1600 de salaire. Et tu ne donnes même pas 100 francs à quelqu'un à côté de toi. Quand tu viens, tu dis, bon, tu sais, le Seigneur nous aime, le Seigneur veut que tu changes ta vie. Il dit, non, il faudrait d'abord que toi tu changes la vie. Quand tu auras changé ta vie, moi-même, je peux changer. Voyez un peu l'église. Il est possible aujourd'hui de briser le cœur d'une sœur ou le cœur d'un frère parce qu'il veut prendre votre enfant en mariage, mais parce qu'il ne parle pas la même langue avec vous. Et tu dis, bon, vraiment, moi, je suis catégorique. Ma fille ne quitte pas. Frère, je t'ai déjà dit, si c'est vraiment toi, il faut aller chercher ailleurs. Chez nous, on ne reçoit pas déjà comme toi. Et dans l'entretien, on est dans la même église et quand vous arrivez, louange et adoration, et le frère là, quand il te voit, ou la soeur là, quand elle te voit, elle dit, cette église, je crois qu'il n'y a pas de place pour moi. Parce que tu es à mesure de faire ça à un frère, à un bien-aimé. Il n'y a pas de motif valable, mais tu dis, la manière dont je vois sa tête là, elles sont déjà comme ça, qui ne réfléchissent pas bien. Et dans l'entretien, il a été créé par un même Dieu que toi qui es en train d'adorer. À cause d'une tête seulement, tu dis, mon frère, je crois que mon fils ne peut pas épouser une femme comme ça. C'est comment dans l'église? Il est possible de vous asseoir avec quelqu'un au temple et partir sans même le saluer et même sans connaître son nom. Est-ce que tu connais le nom de celui qui est à côté de toi? Dans l'église, c'est facile, on se met debout. On dit, ok, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur dit, voilà, Toi, tu te lèves. Quelqu'un à côté de toi, tu ne lui demandes même, frère, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Tu viens d'où tu habites? Non, non. Vous n'avez jamais vu ça. Hein? Vous allez évaluer les dimanches. C'est lui qui va s'asseoir à côté. Essayez de voir. Bon, mais il faut surtout commencer par vous. Il arrive des fois que tu te mets debout et tu dis, bon voilà, je vais partir. Il est possible de quitter l'église seul dans une voiture. Tu quittes l'église et tu dis, tu es même en train de chanter les cantiques de louange. Dans la voiture, tu es seul, dans l'endroit, les autres marchent à pied, tu es fier. Alors que tu es aussi frère et sœur avec les autres. Il est possible de garder une grande somme d'argent à la maison. Tu gardes la somme d'argent à la maison. Mais dans l'endroit, il y a un frère qui dit, $50 comme capital, je vais remettre ça dans 3 mois. Il ne trouve pas, mais toi dans l'endroit, tu as de l'argent à la maison. Et ça ne t'inquiète pas. C'est quand il y a des voleurs même que tu veux dire, bon vraiment, il y avait beaucoup d'argent chez moi. Mais bon, vraiment, ah, les voleurs au tout prix. Et les gens disent, tu avais même de l'argent. Dans l'entretemps, moi, je cherchais celui qui m'embrendait. Toi, tu avais de l'argent. Alors, il faut comparer la prière des deux personnes. Quand vous êtes en train de prier, il faut voir. Si l'autre va prier comment? Quand tu dis vraiment prier pour nous, pour que la sécurité, il dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment prier pour quelqu'un comme ça? Tu as gardé tout ça. Tu gardais ça pour quoi à la maison? Tu ne nous donnais pas ça pour quoi? L'église primitive, je finis par là, l'église primitive, elle a construit sa vie sur une communion qui est telle que dans cette église, chacun devrait voir l'autre comme son propre frère. Chacun devrait voir que si l'autre doit être aidé, c'est moi qui dois l'aider. Parce qu'il y a dans l'endroit, quand je suis en train de dire ici, les gens disent... Pasteur Bambi et Mzuri, parce que vraiment, il faut parce qu'il est léo. Non, c'est toi qui dois aider l'autre. Même si tu n'as rien, tu dois aider l'autre. Je vais finir ce message en donnant juste une anecdote et finir là. Dans une communauté, des frères sont partis prier. Il y avait papa et il y avait un frère. Les papas venaient d'acheter... sa voiture. Le papa venait d'acheter sa voiture, un bus de Transville, comme les bus que nous voyons sur la route ici. Et le frère venait de finir la formation en mécanique. Le Seigneur leur a permis de s'asseoir sur une même chaise au temple. Dans l'endroit, le pasteur a dit, est-ce que chacun peut recommander son besoin entre les mains du Seigneur? Tu peux prier, tu peux prier. Et le pasteur a dit, tu peux même élever la voix dans ta prière. Celui qui a acheté la voiture, le besoin qu'il avait pour son bus de Transville, il avait besoin d'avoir un chauffeur qui connaît le Seigneur, un chauffeur qui aime le Seigneur. Mais dans l'endroit, l'autre disait, Seigneur, j'ai besoin de trouver un véhicule que je peux être en train de conduire sur la route. Mais ils étaient assis sur la même chaise. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans le cœur de chacun. À un certain moment, le pasteur dit, non, je vois que tu peux même partager avec celui qui est à côté. On se prend des années dans les cultes et chacun, tu dis à l'autre le besoin que tu as et tu lui dis de prier pour toi et toi, tu vas prier pour lui. Dans l'entretemps, le garçon dit au papa, « Papa, je viens de finir mes études, je fais la mécanique, je suis chauffeur prêt à être employé. Mais j'ai essayé, je n'ai jamais trouvé là où je peux trouver quelqu'un qui peut me dire, tu peux conduire ce véhicule, je vais te payer à la fin du mois. » Quand il est en train de dire ça, le papa, il a comme quelque chose qui brille dans son cœur. Il dit, moi-même, tel que tu me vois ici, j'ai commandé à Dar es Salaam, mon bus vient d'arriver. Je viens d'hésiter il y a déjà 2 semaines. Je ne veux pas donner ça à n'importe qui. Je voulais avoir un enfant de Dieu parce que toutes les propositions qu'on m'a données, ce sont des gens qui n'arrivent même pas au culte, des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Bien-aimés, je vous assure, la prière a pris fait et on est entré dans la louange. Seigneur, je te bénis parce que tu viens de répondre à mon besoin. Je te loue, Seigneur, parce que tu es fidèle et dans ta fidélité, tu accomplis de grandes choses. Pourquoi on est arrivé là? Parce que, en réalité, quand tu es dans un besoin, la solution est à côté de toi. Et il faut savoir que ta présence à côté de l'autre, c'est une solution pour lui. Et quand tu es en train de prier, il faut savoir que la solution à ton problème n'est pas loin de toi. C'est à côté de toi. Et Dieu a amené celui qui est là pour que tu sois sali pour lui et pour que lui-même soit sali pour toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.